Dieu notre Père, nous voulons ensemble être à l'écoute de tes paroles qui viennent du ciel. Nous te remercions de nous les avoir données dans le livre que nous croyons être ta parole et qui fait autorité sur nos cœurs. Illumine notre intelligence, accorde-nous la grâce de comprendre ce que tu veux nous dire et que ces paroles s'inscrivent en chacun de nous et que le Saint-Esprit, dans le quotidien, puisse nous les rappeler lorsque nous traversons des moments difficiles afin que nous gardions la paix, la joie et la confiance, quelle que soit la croix que tu nous appelles à porter, pour l'honneur et la gloire de ton nom et le salut des âmes, et que nous devenions par nos vies de ceux vraiment qui évangélisent le monde, non pas par des paroles, mais par des actes en Jésus. Amen. Eh bien, nous sommes donc dans ce 25 novembre 89 au matin, et nous étudions le grand thème qui nous a occupé toute cette année dans ces retraites ici à Châteauguay, les faits divins et nos sentiments, et nous sommes arrivés ce matin au troisième volet, plus que vainqueur par celui qui nous a aimés. Et ce verset 27e du chapitre 8 des Romains, vous avez eu l'occasion de le retrouver dans la lecture que vous avez faite dans vos chambres et dans ce partage que vous avez eu dans vos ateliers. C'était donc les versets 30 à 31 à 39. Alors pour ceux qui n'ont pas assisté à notre première rencontre de l'année qui était en février ou à la seconde retraite qui était en octobre, nous rappelons à nouveau ce qu'est un fait. Je ne vais pas allonger, mais on en a déjà parlé hier soir dans l'introduction. Un fait est un événement indiscutable, c'est quelque chose de certain, quelque chose d'assuré, on n'a pas de doute à ce sujet. Ce n'est pas un rêve, c'est un fait, c'est un événement qui s'est passé au fond en dehors de nous. Et si on dit que c'est un fait divin, c'est parce que la parole de Dieu nous le confirme. Il est affirmé qu'il en est bien ainsi. Et puis nous avons souligné que un sentiment, eh bien, c'était plutôt ce que l'on ressent émotionnellement. Et alors, est-ce que nous allons être conduits simplement par des sentiments ou par nos propres expériences, ou bien est-ce que nous allons nous emparer de ces faits qui sont confirmés par la parole de Dieu, puis dire, eh bien, ce n'est pas ce que je ressens qui est vrai, c'est ce que Dieu nous dit. Et je le crois. De sorte que les faits, pour qu'ils nous apportent des sentiments différents de ceux que nous avons naturellement, eh bien, il faut que nous nous emparions par la foi de ces faits. Je crois à ces faits, indépendamment de ce que je ressens ou de mes expériences passées. Parce que si vous regardez à votre passé, vous direz, je ne mentirai jamais. Ça recommencera toujours. Ne regardez plus en arrière, regardez en avant, devant vous, et croyez ce que Dieu vous dit. C'est comme cela que vous honorerez Dieu, et que Dieu vous donnera la force, et que vous expérimenterez qu'il y a changement dans votre vie, qu'il y a quelque chose qui est transformé. Alors, dans notre premier volet, nous avions vu que l'Écriture sainte considérait comme un fait notre mort et notre résurrection avec Christ, indépendamment de ce que vous ressentez. Nous sommes, aux yeux de Dieu, si nous avons cru au Seigneur Jésus, considérée par Dieu comme étant morte. Quant à nos fautes, quant à nos péchés, et nous-mêmes, nous devons nous tenir pour morts. Puisque Dieu dit, vous êtes morts, eh bien, je me considère comme mort. Mais je ne le sens pas. Ben, si je... Il n'est pas question de le sentir. Dieu le dit. Tu es mort. Avant, nous étions morts spirituellement dans nos fautes et dans nos péchés. Nous étions des morts. Et pourtant, nous marchions. C'est ça qui est assez dramatique. Au chapitre 2 des Éphésiens, le monde incrédule est comparé à un cortège de morts qui marche. Vous étiez morts dans vos fautes et dans vos péchés dans lesquels vous avez marché. Des morts qui marchent. Mais par quelle puissance est-ce qu'ils marchent? Par la puissance du diable. Par la puissance de Satan. Ils sont sous la domination du diable et c'est dans l'énergie de Satan qu'ils avancent. Vous avez pour père le diable, dit le Seigneur, à des juifs religieux. Mais quand on accepte le Christ, eh bien, en lui, non seulement il a porté sur la croix nos péchés, c'est ce que vous savez quand vous recevez l'évangile, on vous dit que le Christ est mort pour vos péchés. Alors, vous ne vous sentez plus culpabilisé, vous dites, mais c'est merveilleux, et vous recevez le pardon. Alors, vous avez de la joie, hein, ce qu'on appelle la joie du salut. C'est les premiers éléments. Maintenant, je suis sauvé. Vous dites, je suis sauvé. J'ai pris vraiment la décision de donner mon cœur au Seigneur. Je l'ai donné et je crois à son pardon. C'est par la foi que vous êtes sauvé. Mais au bout de peu de temps, qu'est-ce que vous remarquez? C'est que vous péchez encore. Hein? Et alors, vous commencez à être déprimé et à mettre en doute votre salut. Alors, est-ce que le salut dépend de vos sentiments? Est-ce que le salut dépend de vous, de vos bonnes œuvres, de ce que vous réalisez? Ou bien est-ce que le salut dépend de Jésus? C'est de Jésus que votre salut dépend, comprenez-vous? Et alors, l'œuvre qu'a faite Jésus, est-ce qu'il doit la refaire? Il l'a fait une fois pour toutes. C'est un fait, c'est un événement, il a fait cela une fois pour toutes. Le Seigneur ne va pas mourir une seconde fois pour vos péchés. Il est mort une fois pour toutes, pour tous vos péchés. Il les a expiés et Dieu lui-même, il a dit qu'il ne s'en souvient plus. Alors, ne rabâchez pas tout le temps vos péchés. Vous les avez jugés, vous les avez condamnés, vous les avez vus sur Jésus, mais quand vous avez eu la révélation de l'amour du calvaire, eh bien, vous avez compris combien Dieu devait avoir en horreur le péché et vos péchés, puisque quand Jésus a accepté de les prendre sur lui, Dieu a détourné sa face et le Fils du Père qui était sans péché a été condamné pour ses propres péchés à lui. Il n'en avait pas. Hein. Il a été condamné pour nos péchés. De sorte que Jésus est réellement un grand sauveur. Mais vous pouvez comprendre aussi pourquoi Gethsémané, sa sueur, est devenue semblable à des grumeaux de sang qui coulaient de son front sur la terre. Pour quelle raison? Parce que lui qui n'avait jamais péché, il consentait à devenir le péché même devant Dieu. Comme si c'était lui qui avait commis tous les actes qui se font dans ce monde. Que ce soit l'homosexualité, puisqu'on en parle aujourd'hui tellement, que ce soit le vol, que ce soit les crimes, que ce soit la violence, tout cela, eh bien, le Seigneur allait être traité comme s'il avait commis toutes ces choses, pour qu'un jour, il puisse dire à un homme qui a commis ces choses, tu es pardonné. J'ai payé pour toi. Comprenez-vous? Pour que vous ayez une parole de certitude et que la confiance puisse entrer dans le cœur même d'un mourant, n'est-ce pas, qui ne peut pas refaire sa vie. Il y a tant de gens qui, sur leur lit de mort, disent « si seulement je pouvais recommencer ». Mais ils ne le peuvent pas. Alors qu'est-ce qu'ils ont devant eux? Le jugement, le gouffre. Et si on peut leur apporter des certitudes, mais en leur montrant que le salut que nous leur annonçons et qui est gratuit pour eux n'a pas été gratuit pour le Seigneur crucifié. Le salut, votre salut a coûté la vie au seul être qui était sans péché. Alors vous voyez, le prix de la grâce, vous, vous êtes gracié, mais vos péchés ont réellement été expiés. L'expiation, ce n'est pas un coup d'éponge, le pardon que Dieu vous donne, ce n'est pas le bon Dieu qui passe l'éponge. L'éponge n'est jamais passée sur le péché. Le péché, il a été expié. Le salaire du péché, c'est la mort. Et qui est-ce qui est mort? Jésus-Christ. Alors c'est ça le fait. C'est une certitude. Et cette certitude s'empare de votre cœur. Jésus ne va pas mourir une nouvelle fois. Il est mort. Mais non seulement il a porté nos péchés, mais nous apprenons pour que nous ne péchions plus toujours, nous retombions plus toujours dans les mêmes fautes, qu'il n'a pas seulement pris nos péchés, mais il nous a pris, nous les pécheurs, avec lui. Comprenez-vous? Vous ne pouvez pas accepter le salut de Dieu, c'est-à-dire le pardon de vos péchés, et ne pas accepter d'être entraîné avec le Christ dans la mort. Et c'est bien à quoi on en arrive quand on raisonne un petit peu, hein, on se dit, pour qu'il ne pêche plus, qu'est-ce qu'il faudrait? Que je sois mort. Mais ça, c'est un fait. La Bible vous dit que Dieu, lui, vous considère comme mort. Alors, vous, considérez-vous aussi comme mort. Et voyez-vous, c'est parce qu'on ne se considère pas comme mort que nous retombons toujours dans les péchés, parce que nous voulons faire des choses pour Dieu. Hein? Nous acceptons le salut par la foi, mais ensuite, nous voulons vivre nous-mêmes notre vie pour le Seigneur. Comme si nous devions acquérir le salut. Non, c'est parce que nous sommes sauvés que nous allons marcher d'une façon différente. Nous ne marchons pas dans les traces de Jésus pour avoir le salut, mais nous marchons dans les traces de Jésus parce qu'il nous a donné le salut. Parce que nous avons une autre nature, une nouvelle nature. La vieille, elle est toujours là, elle n'est pas transformée par la conversion. Elle est toujours là, mais je porte sur mon ancienne nature, qui est appelée le vieil homme, je porte le jugement de Dieu. Et je suis d'accord avec Dieu, il ne vaut rien. Et puis quant à ma chair, eh bien je fais l'expérience qu'elle a peut-être toutes sortes d'idées, mais au fond, ça ne rime à rien. La chair est faible, je prends des décisions, et puis au fond, je n'arrive pas à les tenir. C'est pourquoi je ne vous mets pas sous la loi. Parce que quand on se met sous la loi, on prend des décisions d'observer ceci, d'observer cela. Puis qu'est-ce qu'il arrive peu de temps après? On transgresse la loi. On ne tient pas notre engagement. De sorte que ceux qui vivent avec cette idée que la chair peut s'améliorer, eh bien, ils diront de déception en déception. Parce que plus un chrétien avance dans la vie spirituelle et se tient proche du Seigneur, dès qu'il se regarde, il a horreur de lui. Comprenez-vous? Et ça, ça ne doit pas vous déprimer. C'est qu'enfin, vous êtes d'accord avec ce que Dieu dit, avec les faits de Dieu. Parce que si vous aviez pu vous en sortir par vous-même, le Seigneur ne serait pas venu. Vous n'auriez pas besoin d'un sauveur, c'est parce que vous ne pouviez pas vous en tirer. Et quand l'Écriture vous dit que la chair ne peut pas le faire le bien. Puis vous voudriez que votre chair fasse le bien? Elle ne le peut pas. Elle ne se soumet pas à la loi de Dieu. Mais moi, je dis non, non, je ne suis pas si mauvais que ça. Je suis un bon gars. Et je m'en vais y aller avec mon énergie. Puis vous vous épuisez. Puis on vous regarde. Puis on voit que c'est un effort pénible, c'est pas un témoignage chrétien, c'est pas une vie rayonnante, c'est pas une vie de libération. Puis on retombe toujours dans les mêmes choses. Tenez-vous pour mort, dites à Dieu, tu as raison. Mais maintenant, le Christ qui a accepté de s'identifier à nous les pécheurs et qui a comparu devant Dieu comme s'il était lui le pécheur qui a commis toutes ces atrocités, eh bien il a payé la loi de Dieu. Elle est satisfaite. Hein? La loi, elle réclame l'expiation des fautes. Eh bien, l'expiation a eu lieu à la croix. De sorte que la loi n'a plus rien à dire. De sorte que maintenant, nous sommes graciés. Et alors, sous la grâce, qu'est-ce qui naît dans notre cœur pour le Seigneur ? L'amour. On fait les choses par amour. Et quand c'est l'amour qui remplit notre cœur, en réponse à l'amour de Dieu qui nous a aimé le premier, nous nous l'aimons parce que lui nous a aimé le premier. Alors, ça transforme une vie. Et quand on aime, on est capable de faire des folies pour Dieu. Mais des vraies folies. On devient fou par amour pour Dieu. C'est ce que saint Paul nous dit, nous sommes fous pour le Christ. Donc le monde vous traite de fou, ça n'a pas d'importance. Si vous êtes fou pour Dieu, ça vaut la peine. Parce qu'il y en a un tas qui sont fous pour autre chose. Alors, devenez de ces fous, de ces bonnes folies, de ces fous pour Dieu. Je suis fou d'amour pour le Seigneur. Alors, que ne serait-on pas? Parce que Jésus, ayant été considéré par Dieu comme étant le pécheur, il a été condamné, mais étant le Fils de Dieu, il allait reprendre vie, et il n'a pas repris vie tout seul, il nous a pris avec lui dans sa vie nouvelle. De sorte que maintenant, vous avez une vie entièrement nouvelle, et c'est un fait. Jésus est-il ressuscité? Vous le croyez? C'est un fait? Alors, est-ce que c'est un fait que vous êtes ressuscité avec lui? Oui, n'est-ce pas? Vous êtes vraiment ressuscité avec lui. Alors, votre vraie vie, c'est laquelle? C'est celle du Christ. C'est pour ça que Paul peut dire, le Christ est ma vie. Ne dites pas, oui, mais c'était Paul, lui, il était arrivé à un certain degré. Non, il n'avait pas d'autre vie en dehors de Christ. Parce que c'était Saul de Tarse avant. Le persécuteur des chrétiens, l'homme religieux, tout ce que vous voulez. Mais il était un calomniateur, un blasphémateur. Il se croyait dans la vérité et il était dans l'erreur. Alors, voilà les faits divins. Vous vous emparez de ces faits. C'est pas que vous sentiez que vous sentiez que vous êtes, mais vous vous tenez pour mort. Oh Dieu, tu l'as dit, je te donne raison. Et alors, puisque maintenant, on est arrivé à la seconde, au second volet, notre vie, où est le Christ maintenant? Auprès du Père. Hein? Alors, si nous sommes ressuscités en Jésus, notre vie, elle est où? Elle est dans les cieux, comprenez-vous? Elle est déjà dans les cieux. Votre vraie bourgeoisie, votre vrai chez-vous, c'est dans le ciel, là où est Jésus. Et c'est en lui que Dieu vous voit. Dans le ciel, Dieu, le Père, très saint, vous voit dans son Fils. Alors, souvenez-vous toujours de cela. C'est un fait. Ne vous regardez pas vous-même, parce que vous êtes toujours vous-même, mais regardez le Seigneur. Et quand on regarde le Seigneur, on est complètement dépréoccupé de soi-même. Il devient tout pour nous. Il devient notre justice. Il devient notre sainteté. Il devient notre rédemption, n'est-ce pas? Il devient vraiment notre salut total. C'est cela qui doit compter pour nous. Je regarde à lui. Et je sais que, aux yeux de Dieu, je suis agréable à tes yeux. Nous sommes rendus agréables dans le bien-aimé. C'est là l'effet que nous avons. Notre vie est cachée dans le Christ en Dieu. C'est-à-dire que maintenant, nous allons penser aux choses comme Christ y pensait. Le Christ a été sur la terre de lieu en lieu, faisant du bien. Il a connu cet environnement que nous connaissons nous aussi, mais au travers de toutes ces choses qu'il a traversées pendant 33 ans, il nous a montré comment un homme qui est en contact avec son Père Céleste peut vivre. Et c'est cette vie-là et qui est devant nos yeux et qui devient possible. Je veux vivre de ta vie. Notre vie est cachée dans le Christ. En Dieu, ce n'est pas un rêve, c'est une réalité. Alors, pour toutes ces choses sont écrites dans cet épître de Paul aux Romains, aussi aux Galates, et nous avons pu, dans ces dernières retraites, lire aussi toute l'épître aux Colossiens qui nous a permis de voir que réellement notre vie était cachée dans le Christ en Dieu, que nous pouvions être délivrés du joug du péché, du joug de la loi, de l'attrait du monde et aussi de la puissance de Satan. Alors nous arrivons maintenant à notre troisième volet, plus que vainqueur par celui qui nous a aimés. Est-ce que c'est un fait ou est-ce que nos sentiments sont différents? Nous disons non, moi je ne suis pas vainqueur. On va essayer de relire ces textes. J'espère que vous faites la même expérience que moi quand vous lisez ces textes. On lit depuis le verset 31. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Alors, quand vous lisez un verset comme ça, qu'est-ce qui se pose à votre idée? Quelle question est-ce que vous vous posez? Quelle chose, hein? Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Alors, ça vous oblige de lire ce qui est avant. Comprenez-vous? Ça vous oblige d'aller voir qu'est-ce qui est avant. Et puis c'est l'épître aux Romains, c'est donc les choses qui se trouvent dans l'épître aux Romains. Mais disons que nous ne voulons pas aller trop en arrière, mais au moins ce qui est dans le chapitre 8. Et je voudrais croire que certains, si vous ne vous en souveniez pas, vous avez au moins lu le chapitre 8. Mais je veux croire que si vous avez vraiment été touché par ce verset, que dirons-nous donc à ces choses? C'est une exclamation de Paul. Il y a d'autres traductions dit, qu'est-ce que nous pouvons dire de plus? À toutes ces choses, à tout ce qui a été dit, hein, et que nous avons étudié en lisant l'Épître aux Romains, qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Que dirons-nous donc à ces choses, hein? Vous voyez la réponse que vous pourriez mettre? Un mot. Rien. Mais ça, c'est total. Que dirons-nous donc à ces choses? Qu'est-ce que nous pouvons dire de plus? Il y a tout dans cet Épître aux Romains. Si vous reprenez simplement le premier verset du chapitre 8, qu'est-ce qu'il a dit? Il n'y a donc, mais ce donc, ça nous fait aller avant. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Vous voyez comment on doit lire l'Écriture. Alors, c'est quand même merveilleux. Bien, je m'en vais relire. Je vous ai dit qu'un moine catholique qui s'appelait Martin, et qu'on a appelé Luther, hein, Martin Luther, il était moine, et il s'est converti par le moyen de l'Épître aux Romains, alors qu'il était dans le tourment, dans l'angoisse, il se voyait pécheur, il n'arrivait pas à s'en sortir, il avait beau se flageller, n'est-ce pas, ça n'allait pas, il ne s'améliorait pas, jusqu'à ce qu'il ait trouvé l'Épître aux Romains dans son couvent, il s'est mis à lire cela, et alors, c'était une lumière, une révélation, et depuis sa conversion au Seigneur, parce qu'on peut être moine sans être converti, hein, comme on peut être frère évangélique sans être converti réellement, hein, ne vous y trompez pas. Attention, n'est-ce pas, parce que c'est pas simplement de prendre une décision et puis dire voilà, maintenant je suis sauvé depuis tant d'années. C'est de vivre vraiment cette vie de Jésus. Alors, Luther lisait une fois par semaine l'Épître aux Romains. Puis il ne s'en lassait pas. Et je crois que si nous pouvions justement nous imprégner de cet Épître, nous aurions une vie davantage à la gloire de Dieu. Il n'y a désormais aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Pour quelle raison? Qu'est-ce qui a été condamné? C'est Jésus-Christ, n'est-ce pas? Jésus-Christ a été condamné. Si vous lisez le chapitre 3 des Romains, il est dit qu'il n'y a pas de juste, pas même un seul. Mais est-ce que vous seriez, vous, l'exception? Est-ce qu'il y a ici quelqu'un qui est l'exception? Ou est-ce que vous pensez que dans le monde, il y a eu une exception? Il n'y a pas de juste, pas même un seul. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et pourtant, ce que nous allons voir, c'est que Dieu veut nous donner la gloire. Mais c'est lui qui va nous la donner. Alors, voilà, il n'y a plus de condamnation. Voilà une des choses qui est fantastique. Qu'est-ce que vous pouvez dire de plus? Et puis, si vous lisez ensuite le verset 28e, qu'est-ce que vous avez lu? Dans le même chapitre, pour ne pas sortir du chapitre. Nous pensons, nous savons. C'est donc une certitude, hein, nous savons, du reste, que toute chose, hein, puisque dirons-nous donc à ces choses, nous savons que toute chose concourt ou travaille, hein, le vrai mot, comme je le dis souvent dans le texte, c'est toute chose travaille, c'est les douleurs de la femme enceinte, ça fait mal, hein, mais ça va déboucher sur une vie nouvelle. Toute chose coopère ou toute chose travaille, si vous voulez, toute chose concourt, mais c'est pas un simple concours extérieur, c'est quelque chose qui vous prend. Toute chose travaille au bien de ceux qui aiment Dieu. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? C'est un fait. Et vous devez le croire même quand tout va mal. Comprenez-vous? C'est ça la foi. La foi, quand tout va mal, elle croit que tout va bien. Non pas parce qu'elle s'illusionne, hein, mais parce qu'elle sait que ça ne peut pas être autrement. Apparemment, tout est contre moi. Mais pourtant, puisque Dieu me dit que tout travaille à mon bien, je le crois. Qu'est-ce que je crois? Mes sentiments ou ce que Dieu dit? Je crois ce que Dieu dit. Et c'est pourquoi on peut surnager, on peut triompher. Et c'est bien dans ce sens que je vous ai cité Marguerite Duville, parce qu'elle a eu toute espèce d'épreuves, hein. Je vous l'ai dit hier, à 19 ans, elle s'est mariée, et c'était une très belle femme, elle avait des prétendants, mais voilà que elle avait perdu son père à l'âge de 7 ans, et son père lui avait donné de bons conseils, elle s'en souvenait, elle avait 7 ans, mais elle a perdu son père à l'âge de 7 ans, et alors perdant son père, c'était la pauvreté dans la maison, et puis elle a travaillé pour aider sa mère, mais voilà qu'un jour sa mère s'est remariée, puis comme sa mère était une noble, elle a épousé un étranger, un médecin, et puis alors c'était mésalliance, et de ce temps-là c'était très mal vu, et alors elle a beaucoup souffert. Et celui qu'elle aimait vraiment à l'âge de 19 ans, qui était aussi un noble, eh bien, elle n'a pas pu l'épouser. De sorte, vous voyez, elle a eu un gros chagrin. Chagrin d'amour, parce qu'elle aimait quelqu'un qui correspondait à elle. Mais étant donné que sa mère s'était remariée avec quelqu'un qui n'était pas accepté, même qu'il était médecin, mais c'était un étranger, eh bien, elle a dû souffrir ça. Et après, ils ont déménagé, ils sont venus à Montréal, et là, elle a rencontré ce sieur Duville, et qui l'a demandé en mariage. Bon, elle a pensé que c'était quand même bien, et puis elle a été malheureuse. Elle s'est rendue compte tout de suite que ce n'était pas cela, c'est pas l'homme, mais elle s'était mariée devant Dieu. Elle n'a pas dit, ben voilà, je divorce. Non, elle a accepté. Elle a accepté sa situation. Et elle a eu 6 enfants, au fond. Il y en a que 2 qui ont survécu, qui ont été vivants, et qu'elle a élevés après la mort de son mari, qui est mort à 30 ans, après l'avoir trompé et avoir fait tout au monde. Hein. Eh bien, ce qui me frappe dans la vie de cette femme, c'est que quand même, elle a cru toujours que toute chose travaillait à son bien. Elle ne s'est pas laissée arrêter. Elle n'avait pas les lumières que vous avez. Hein. Mais elle le croyait. Elle s'est quand même basée sur des faits. Alors, nous avons donc des exemples. Et quand après, elle a passé 2 fois au feu, puis qu'elle a vu qu'elle devait se donner aux pauvres, qu'elle n'a pas été comprise du tout, elle a persévéré envers et contre tout. Alors mes amis, moi je crois que nous devons nous réveiller, au lieu de juger le passé, de juger nos ancêtres, nous devons nous dire, mais qu'est-ce qu'ils ont fait eux? Ben, ils ont eu une foi qui était accompagnée d'œuvres aussi. Et s'ils sont morts, leurs œuvres les suivent et nous sommes les premiers bénéficiaires de leurs œuvres. Alors que tant de chrétiens qui sont évangéliques, qui disent connaître la parole, ils ne vivent pas. Sinon, pour eux-mêmes, sur eux-mêmes, repliés sur eux-mêmes, ils ne rayonnent pas. Comprenez-vous? Alors, cessons de juger les autres, cessons de juger les autres églises, de juger le passé, et essayons de vivre vraiment selon les connaissances que nous avons. Alors, nous serons positifs. Ça ne veut pas dire que nous acceptons des erreurs. Ce n'est pas cela. Mais en toute chose, il est dit, éprouvez toute chose et retenez quoi? Ce qui est bon. Vous le connaissez, ce verset. Eh bien, retenons ce qui est bon. Alors vous aurez un cœur aux dimensions du cœur de Dieu. Et c'est ça le cœur d'un chrétien. Nous aimerons, nous ferons des gens qui aiment. Non pas parce que les autres ont exactement les mêmes pensées que nous, les mêmes lumières que nous, mais nous essayerons d'éclairer ceux qui nous entourent. Non pas de les éblouir, hein, parce que les chrétiens qui veulent éblouir font des collisions. C'est vrai, si vous ne baissez pas vos phares, hein, quand vous croisez, vous provoquez une collision. Alors, il y a ces chrétiens qui sont tellement lumineux, illuminés, n'est-ce pas, et ils veulent illuminer tous les autres. Ils les éblouissent. Soyez petits à vos propres yeux. Soyez humbles. Éclairez le chemin des autres. Mettez un peu de lumière sur leur sentier pour qu'ils ne s'en troublent pas. Mais n'essayez pas de leur en mettre plein la vue. C'est pas ça le christianisme. C'est d'être tout simple et humble, puis de reconnaître que nous avons aussi nos fautes et nos manquements, mais nous nous en jugeons, nous portons sur nos manquements le jugement de Dieu. Nous sommes d'accord avec Dieu. Et alors ça nous jette encore davantage dans les bras de notre Sauveur. Quel bonheur d'avoir un Sauveur. Je ne m'habitue pas d'avoir un tel Sauveur qui a pris tous mes péchés et qui ne revient plus sur cette question. Si moi, je m'en juge. Parce que ce que je perds quand je pêche, c'est quoi mon salut? Non, c'est la joie de mon salut. Et quand on a connu la joie du salut, on ne peut plus s'en passer. On passe par des épreuves, mais alors on se condamne, on se juge, et puis on va de l'avant en croyant que Jésus a tout accompli et qu'il ne remet pas en question notre salut. Il a payé assez cher, il a payé un assez grand prix pour que nous soyons totalement et parfaitement sauvé. Il n'y a que Satan, l'accusateur, qui essaye de vous mettre quoi dans le cœur? Des doutes. Mais Satan, il a été vaincu. Jésus a vaincu Satan et nous sommes vainqueurs en Jésus. Plus que vainqueurs par Jésus. Et du péché, et du monde, et de la chair, et aussi de Satan. Alors, que dirons-nous donc à ces choses? Donc, plus condamnation, puis maintenant, dans la vie courante, tout ce qui arrive, je sais que cela travaille, coopère à mon bien. Dieu m'aime plus que je m'aime moi-même, et s'il permet certaines épreuves, c'est pour me donner davantage. Quand il doit émonder la vigne, ce n'est pas pour que ça porte moins de fruits, mais plus de fruits. Il enlève les branches gourmandes pour qu'il y ait davantage de fruits, beaucoup de fruits et du fruit qui demeure. Pas seulement une apparence de fruits, comme on peut voir quelquefois en certaines saisons, et puis quand tout devrait être à maturité, c'est misérable. Bien non, laissons-nous faire par le Seigneur, ou si vous pouviez comprendre cela. Ne plus essayer de faire par vous-même des choses pour le Seigneur, mais vous laissez faire. C'est Dieu qui veut faire avec vous, c'est Dieu qui veut vous posséder et vous employer. Laissez-vous faire par lui, abandonnez-vous, n'essayez plus de lutter, cessez vos luttes vaines pour vous améliorer, jetez-vous dans ses bras, c'est ce qu'il vous dit. C'est cela le fait que vous devez croire. Abandonnez-vous au Seigneur. Ne regardez plus à ce que vous êtes. Vous vous sentez misérable, mais moi aussi. Mais ce qui est merveilleux, c'est que même nos péchés ne sont plus capables de nous séparer de l'amour de Dieu, puisque rien ne peut nous séparer. Alors, que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? C'est une première question. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? C'est une deuxième question. Est-ce que vous êtes convaincus de cela? Est-ce que Dieu est pour vous? Il l'est, hein? Puisqu'il est dit que toute chose coopère au bien de ceux qui aiment Dieu. Qui dit une chose, elle arrive si Dieu ne l'a pas commandée. Alors, ça ne veut pas dire que vous comprenez le pourquoi. Nous n'avons pas besoin de savoir pourquoi. Nous lui faisons confiance. Il est notre Père. Et il ne peut pas être contre nous. Si Dieu est pour nous, qui pourra être contre nous? Alors, quelle est la réponse que vous pourriez donner là? Puisque c'est... Hein? Un mot. Personne. Personne. Il n'y a pas besoin de dire grand-chose. Non. Personne. Ni dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre. Personne ne peut être contre vous. N'est-ce pas merveilleux? Que dirons-nous donc à ces choses?
Rien.
On n'a plus rien à ajouter, c'est total. Hein? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Maintenant, lui qui n'a pas épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous. Vous avez remarqué cela? Qu'est-ce qu'a livré Jésus, d'après vous, jusqu'à ce jour? Qu'est-ce qu'a livré Jésus dans tout? C'est Judas, c'est Pilate, n'est-ce pas? Et qui a livré, il leur livra Jésus pour être crucifié, hein? Et c'est vrai, il y a des responsables. Mais au fond ici, qu'est-ce qu'il est dit? C'est Dieu, parce que Dieu voulait nous sauver. Et il n'y avait que Jésus. Alors, vous voyez ce que Dieu a fait par amour pour vous? C'est lui qui l'a livré. Et qu'est-ce qu'il était Jésus pour le Père? Son fils unique, bien-aimé. Eh bien, Dieu a livré pour qui? Pour nous. Alors, est-ce que ça ne vous donne pas des dimensions extraordinaires au sujet de l'amour de Dieu? N'est-ce pas? Et c'est un fait. Est-ce que Jésus a été crucifié? Oui, n'est-ce pas? C'est un fait que Jésus a été crucifié. Moi, ça ne me gêne pas qu'il y ait un crucifié là. Hein? Ça me rappelle qu'il a réellement été crucifié. Mais ce qui est différent, c'est que Jésus n'est plus sur la croix. Mais il a été sur la croix. Alors quand des prêtres me disaient, on est tanné de ce grand cadavre, mais moi ça ne me tanne pas. Ça me rappelle simplement, n'est-ce pas? Non, mais c'est vrai que Jésus n'est plus sur la croix. Mais il a été sur la croix. Et c'est simplement pour moi un rappel que c'est vrai qu'il a été cloué sur le bois de la croix, comme s'il était maudit, quiconque est pendu au bois, mais maudit pour qui? Pour moi, n'est-ce pas? Alors, ça me rappelle quelque chose. Et je ne m'habitue pas. Alors, lui qui n'a point épargné son propre fils, vous allez relire ce verset cet après-midi avec d'autres questions, mais qui l'a livré pour nous. Alors, je souligne ça. Hein. Le Père a livré son fils. Le Père voulait cela. Il nous a aimé au point de sacrifier son fils. C'est quelque chose qui nous dépasse. Vous comprenez comment on peut arriver à de l'adoration? Qu'est-ce que c'est que l'adoration? C'est quelque chose qu'on ne comprend pas. Alors on se prosterne, puis on adore. C'est trop grand, on n'en peut plus. Alors on adore. Quand on pense, quand on se laisse pénétrer par ça, on arrive à l'adoration. Et je voudrais tant que vous puissiez savoir ce que c'est que l'adoration. C'est pas des mots qu'on fait, c'est pas des phrases. On n'essaye pas d'éblouir son public. Mais vraiment, on lui dit notre amour. Je comprends pas. Dieu m'a aimé au point de livrer, non pas des anges, hein, mais son propre fils qui était de toute éternité sa joie et ses délices, puisqu'il l'a dit quand Jésus est entré dans les eaux du Jourdain, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui je mis tout mon plaisir. Et c'est lui qui l'a livré pour nous. Il a livré pour nous tous. Alors, s'il vous a donné ce qu'il avait de plus cher, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses? Vous voyez qu'on retrouve ces choses, hein? Toutes choses. S'il vous a livré son fils, qu'est-ce qu'il pourrait retenir? Rien. Hein? Comment ne nous donnera-t-il pas toutes choses avec lui? Vous ne trouvez pas que c'est merveilleux? S'il a donné le plus, il donnera le moins. Il ne peut pas nous donner plus que ce qu'il nous a donné. Hein. Il nous a donné Jésus, qui était la gloire du ciel. Alors, pourquoi est-ce que nous ne vivrions pas avec cette certitude qu'il nous donnera toute chose? Mais ce dont nous avons besoin. Pourquoi est-ce que nous nous faisons du souci pour notre vie, pour notre vêtement, pour notre manger, pour notre boire? On est toujours inquiet, on veut une sécurité matérielle, Mais si nous revenions à la vraie foi, malgré les temps dans lesquels nous vivons, nous ferions l'expérience que le Seigneur y pourvoit. Il ne nous a pas promis le surplus, mais il nous a promis le nécessaire. Et si nous avons de quoi nous vêtir, de quoi nous nourrir, nous serons satisfaits, parce que de toute façon, nous n'allons rien emporter. Nu, je suis sorti du sein maternel, puis nu, je retournerai au sein de la terre, si le Seigneur n'est pas venu avant. Mais nous n'emporterons rien. Et quand nous voulons simplement amasser pour nos enfants, qu'est-ce que nous leur préparons? La dispute. Hein? Oui, il y en a qui disent. Nous leur préparons les chicanes, hein? Bien souvent, à cause du fameux héritage. C'est épouvantable de voir des frères qui ne se saluent plus à cause d'un héritage. Oh, ils étaient réunis autour de la fosse, mais ça discutait déjà. Ça jasait dans leur cerveau. C'est épouvantable. Alors, donnons à nos enfants la possibilité d'avoir un métier, de travailler, cherchons, oui, faisons des sacrifices. Mais ce n'est pas de capitaliser pour eux qui compte. Donnons-leur un métier qui corresponde à leur goût. Il ne faut pas donner à nos enfants nécessairement parce que moi je suis cela, mon fils il devra être cela et nous faisons fausse route. Il faut savoir ce qui correspond à l'enfant aussi. Et c'est très jeune que nous pouvons les orienter. Et nous donnera toutes choses avec lui. Et faisons aussi un sujet de prière. Dans le toutes choses, vous pouvez tout y mettre. Hein? C'est vrai? Alors voilà, donc ce serait la troisième question. Hein? Vous en aviez trouvé combien, votre question? 7, oui. Mais selon certaines traductions, il y en a 8. C'est pas le nombre qui compte. Mais en tout cas, on peut en trouver 7. Ça veut dire 7 chiffres de la plénitude. Mais dans une autre version, vous en trouverez peut-être 8. Ça dépend où on met le point d'interrogation. Comprenez-vous? Mais enfin, c'était pour vous faire un petit peu travailler. Hein. Mais c'est pas le nombre qui compte. Hein. Mais c'est ce que ça veut dire. Alors, qui accusera maintenant des élus de Dieu? Vous avez trouvé quelqu'un? Hein? Personne. Alors voilà, vous pouvez mettre personne. Il ne faut pas avoir peur de se répéter. Personne. Qui accusera des élus de Dieu? Personne. Et vous êtes certain d'être élu par le Seigneur. Qui accusera des élus de Dieu? Oh, on peut m'accuser. Relisez le psaume, Ésaïe chapitre 50. Et on pense bien que Paul était en communication avec ce chapitre d'Ésaïe quand le Saint-Esprit lui a commandé d'écrire ces paroles. Qui accusera des élus de Dieu? Qu'est-ce qui nous justifie? C'est Dieu. C'est Dieu qui justifie. N'est-ce pas merveilleux? Vous êtes justifié par qui? Par Dieu lui-même. Alors on peut m'accuser? Oui. Alors on peut tout de suite se défendre. Hein. Moi j'attends. J'ai pas besoin d'aller en cours tout de suite. C'est Dieu qui justifie. C'est Dieu qui justifie. Je m'en remets à toi. Oh Dieu, toi tu sais la vérité, tu connais la chose. Alors, je te fais confiance. Mais ça veut dire que je vais peut-être souffrir. Mais ça c'est dans le programme. Jésus ne nous a jamais dit que si nous le suivions, nous n'aurions pas à souffrir. Et nous allons voir ce que lui a souffert pour que, vraiment, puisque notre vie est la sienne, nous devons comprendre que le salut qu'il nous donne nous incorpore à lui et que nous allons connaître aussi des souffrances. Mais qu'est-ce qu'on apprend au dehors de la souffrance? C'est la souffrance qui nous éduque bien souvent, qui nous façonne. Une fois qu'on a souffert, on est capable de comprendre les autres et de se pencher sur les souffrances des autres et consoler les autres par la consolation que nous avons connue, nous, quand nous étions affligés. C'est Dieu qui justifie. Nous sommes justifiés. Mais si Dieu nous justifie, c'est pour quelle raison qu'il nous justifie? Sur quoi est-ce que Dieu se base pour nous justifier? Sur la mort de son Fils. Et qu'on peut aller jusqu'à dire que Dieu serait injuste s'il condamnait ceux qui appartiennent à Jésus-Christ. Il est juste en justifiant ceux qui ont la foi de Jésus. Ceux qui ont la foi en Jésus, eh bien, Dieu est juste quand il les justifie parce que le prix a été payé. Et vous voyez, ça vous mène au chapitre 3 des Romains, où il est dit que Dieu est juste en justifiant ceux qui ont la foi en Jésus, parce que Jésus a payé. Dieu était le créancier, nous étions des débiteurs, mais Jésus a payé notre dette. Alors, est-ce que le créancier peut nous réclamer quelque chose? Alors, nous avons la paix. Nous avons la paix avec Dieu. Avoir la paix avec Dieu, c'est quelque chose. C'est quelque chose de merveilleux. Même si nous devions mourir ce soir, nous sommes en paix pour paraître devant lui. Parce que nous sommes justifiés par lui. Je ne regarde pas à moi, je regarde à ce que Jésus a fait pour moi. Et c'est lui qui est mon espérance. Et les yeux sont fixés sur Jésus. Alors je reste en paix. Tu garderas dans une paix parfaite l'esprit qui s'appuie sur toi. Vous avez ça dans le prophète Ésaïe. Alors, verset 34. Qui les condamnera? Est-ce que vous pourriez être condamné? D'après le premier verset, il n'y a aucune condamnation. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un qui pourrait vous condamner? Qui est-ce qui aurait pu nous condamner? En tant qu'homme? Qui est-ce qui était le seul juste? Puisque je dis, sur la terre des humains, il n'y a pas de juste. Mais il y a eu un moment où il y a eu un juste. Qui est-ce qui aurait pu nous condamner? C'est Jésus. Et vous savez, si on ne l'a pas aimé, Jésus, c'est essentiellement parce que sa vie était la condamnation de la vie des autres, même des gens religieux. Il avait une vie telle qu'on n'a pas pu supporter cette vie-là. C'était une vie qui les condamnait, et pourtant, il ne condamnait personne. Il disait, je ne suis pas venu pour juger le monde, mais pour le sauver. Mais on n'a pas voulu de cette vie. Alors, si quelqu'un pouvait nous condamner, c'était Jésus. Mais voilà, lui, non, c'est lui qui est mort. Christ est mort. Et bien plus, il est ressuscité, donc il n'est pas resté dans la mort, donc notre sauveur n'est pas un sauveur mort, c'est un sauveur vivant. Il a été crucifié, mais il est ressuscité, ce sont des faits. Et puis qu'est-ce qu'il fait maintenant? Il est où? À la droite de Dieu. Et puis qu'est-ce qu'il fait? Il intercède pour nous, il nous représente devant Dieu. Alors, est-ce que vous avez besoin d'une autre intercession? N'est-ce pas? Il intercède pour nous, le grand intercesseur. Et il est dit, ailleurs qu'il présente son sang pour nous, il est devant Dieu comme notre souverain sacrificateur, celui qui nous représente. Il nous porte sur son cœur, il nous porte sur ses épaules, comme le sacrificateur avait les pierres précieuses sur le pectoral de l'éphod, les fils d'Aaron, et les noms des 12 tribus étaient sur son cœur. Et quand Aaron se présentait devant Dieu, dans le tabernacle ou dans la tente, hein, eh bien, et il portait sur son cœur le nom gravé des 12 tribus d'Israël. Puis il les avait aussi sur les épaulières de l'éphod, il les portait sur ses épaules. Hein. Alors les épaules, c'est le siège de la force, et le cœur, c'est le siège de l'amour. Alors, le Seigneur est notre souverain sacrificateur, il nous porte sur son cœur, il nous aime, et puis il nous représente, c'est ce que représentait le sacrificateur, il était le représentant du peuple devant Dieu, et puis il était aussi le représentant de Dieu devant le peuple. Bien, c'est ce rôle que Jésus fait, mais il est aussi notre avocat. Et un avocat, il prend la défense de des coupables. Hein. Et quand nous confessons nos péchés, le Seigneur montre son sang. J'ai versé ce sang pour lui. Et la communion nous est rétablie. Mais il faut que nous confessions nos fautes. Il ne faut pas les garder. Ce qui nous tourmente, c'est quand on garde quelque chose. Et nous juger de toutes nos tendances. Hein. Appeler péché ce qui est péché. Et si j'ai une tendance qui n'est pas de Dieu, qui n'est pas en rapport avec le Seigneur, quelque chose que le Seigneur ne pense pas ou ne fait pas, j'ai à m'en juger. Parce que sans ça, tôt ou tard, mon péché me trouve et me coule. Il intercède pour nous. Alors, verset 35, qui nous séparera de l'amour du Christ? Personne. Rien. Rien. Rien ne peut nous séparer de l'amour du Christ. Mais il faut que cela soit inscrit en lettres de feu dans mon cœur. Alors, vous voyez, il y a toute une série là. Hein. La tribulation, l'angoisse, la persécution, la faim, la nudité, le péril, l'épée, nous verrons cela dans une autre rencontre. Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. C'est un verset d'un psaume, psaume 44. Cela, nous l'étudierons cet après-midi. Mais dans toutes ces choses, verset 37, nous sommes plus que vainqueurs. Voilà notre thème. Hein. Dans toutes ces choses, vous pouvez les repasser dans vos cœurs, ces choses. Nous sommes plus que vainqueurs. Est-ce que vous le croyez? Est-ce que ça peut devenir possible? Est-ce que c'est possible? Oui. Et ça, c'est définitif. Hein. En cette journée du 25 novembre 1989, 11 ans avant l'an 2000, en ne sachant pas les événements qui vont venir, vous croyez cela. Alors vous serez prêts pour tout ce qui peut arriver. Vous avez vu comme le monde est bousculé maintenant. Hein. Tout d'un coup, le mur de Berlin tombe. Est-ce qu'il est tombé chez vous, le mur de Berlin? Dans vos cœurs? Il y a des fois un mur, hein, mais vous aussi qui tombe. Et il n'y a pas besoin de beaucoup de temps, ça peut tomber aujourd'hui. Nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Il n'est pas dit parce que nous l'aimons, mais par celui qui nous a aimés. Ça viendra de lui. Attendez-vous à son amour à lui. Est-ce que vous croyez qu'il peut vous aimer à ce point-là? Oui. Vous croyez. Alors vous voyez, c'est un lien personnel avec le Seigneur. C'est quelque chose de définitif entre vous et le Seigneur. Alors vous arrivez au verset 38 que vous avez lu et que nous étudierons plus spécialement dimanche matin. Car j'ai l'assurance. Et alors vous voyez tout ce qui passe. Que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni aucune autre créature, ni la profondeur, ni aucune autre créature, ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Alors les réponses, donc vous avez trouvé 7 ou 8 questions, hein, disons 7. Alors, qu'est-ce que nous pourrions dire à la première question? Rien. Ou bien alors, merveilleux. Ou admirable. Oui. Amen. N'est-ce pas? Amen. Oui, oui. Question 2. Personne. Question 3.
Alléluia.
Si tu veux, alléluia. Ou bien, assurément, certainement. N'est-ce pas? Et question 4, personne. Question 5, personne. Question 6, personne. Question 7, rien. même être fantastique. Plus que vainqueur. C'est pas une parole de Paul, c'est une parole qui nous vient de Dieu, qui nous vient d'en haut. Alors nous restons toujours dans notre thème, et pas gardez-vous de refuser d'entendre celui qui parle des cieux. Est-ce que c'est moi, un pauvre type, qui vous dit ces choses? Ou bien c'est Dieu? C'est Dieu, n'est-ce pas? Alors ne parlez pas de l'homme. C'est Dieu qui vous dit ces choses, et il vous les dit le 25 novembre. Et vous acceptez cela comme étant définitif. Alors, nous sommes infiniment reconnaissants, Seigneur. Maintenant, est-ce qu'il y a parmi vous quelqu'un qui a été frappé plutôt par une question que par une autre?
Ce qui nous séparera de l'amour de Dieu, de l'amour du Christ?
Qui nous séparera de l'amour du Christ?
Parce que sans amour, on ne peut pas.
Le monde a besoin de cet amour, mais il ne veut pas le connaître. Mais quand on le connaît, on sait que rien ne peut nous séparer. Et alors on vit. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui a... Oui.
Verset 32, où on retrouve des faits bien précis avec la mort de Jésus, avec sa résurrection, avec le fait qu'il nous donne toutes choses.
Ouais. C'est vrai, n'est-ce pas? Il y a tout dans ce verset. Vous voyez la richesse d'un seul verset, alors on peut méditer, reméditer là-dessus. Ce que nous ferons cet après-midi. Quelqu'un d'autre a été frappé par une part. Oui.
Verset 36, on a posé une question sur ça, et on a trouvé la réponse à 2 Corinthiens 14, et à 2 Corinthiens 4, 11.
Oui.
On disait, car nous vivons, nous sommes sans cesse livrés à la mort à cause de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre chair mortelle. Alors, c'était la réponse qu'on trouvait à ce verset 36.
Et c'est absolument vrai, et c'est juste, verset 36, n'est-ce pas? C'est une citation d'un psaume. C'est à cause de toi. C'est pas à cause de parce qu'on vole, parce qu'on fait du mal, hein. C'est pas à cause de nos fautes, à cause de nos péchés, mais c'est à cause de notre vie avec Jésus. Parce qu'on veut vivre sa vie et qu'on ressemble à Jésus que l'on est persécuté. Ça, c'est les vraies souffrances. Des souffrances qui complètent celles du Christ. Je ne parle pas des souffrances expiatoires, mais celles qu'on a vues dans Colossiens 2, 1, n'est-ce pas? J'achève en mon corps ce qui manque aux souffrances du Christ. Pour son corps, hein, c'est total quant à l'expiation, nous n'apportons rien à l'expiation, mais nous devons devenir conformes à lui dans sa mort. Alors, justement, Dieu permet ces épreuves que vous avez là au verset 36, comme nous, on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie, c'est bien ce qui a été fait de Jésus. Il était comme un agneau qu'on mène à la boucherie, c'est Ésaïe 53. Et alors la réponse que notre frère Charles vient de nous donner, elle est vraiment dans Corinthiens, 2 Corinthiens, chapitre 4, avec ses clés pour ma propre vie aussi. Verset 11, hein. Car nous qui vivons, nous sommes sans cesse livrés à la mort à cause de Jésus, n'est-ce pas, à cause de son nom. Alors nous voilà réconciliés avec tout, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre chair mortelle. C'est comme il est dit aussi dans le chapitre 4 de la première aux Corinthiens, que nous avons ce trésor dans des vases de terre, d'argile, afin que l'excellence de la puissance soit manifestée comme étant de Dieu et non pas de nous. Les gens se disent, mais comment est-ce qu'ils peuvent passer par de telles épreuves et rester dans la paix? C'est ça le témoignage. C'est ça la vraie évangélisation. Quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Et alors quand on voit ma faiblesse, on n'attribue plus rien à l'homme, mais on attribue tout à Dieu. Et c'est ça qui est merveilleux. On donne gloire à Dieu. Alors on peut se réjouir dans les souffrances, parce que c'est des souffrances valables. Comprenez-vous? Nous voilà réconciliés avec les épreuves qui peuvent survenir dans le chemin. Et puis ce que nous savons, c'est que Dieu ne nous enverra pas au-delà de nos forces. Dieu ne nous enverra pas au-delà de nous. Il éprouve, mais il a aussi compassion. Et c'est toujours pour nous révéler sa puissance en délivrance.
Est-ce qu'il y a une question qui voudrait que vous vouliez poser?
Sinon, eh bien, vous avez encore un quart d'heure avant le dîner. Nous vous disons déjà que cet après-midi, donc nous nous retrouvons ici à 14h, donc vous êtes libre jusqu'à 14h, vous pouvez vous reposer ou dans vos chambres, ou bien si vous le voulez,
ce que j'ai fait ce matin, moi, j'ai fait ma petite promenade, on peut faire le tour de... C'est un peu glissant, mais faites attention. Et puis, prenez des vêtements assez chauds.